dans notre studio, et je les remercie d'être venus, deux passionnés de cette bibliothèque de l'instruction du 3e arrondissement au 54 rue de Turenne. Odile Vacher-Martin, qui est maître de conférences en psychologie sociale à Paris 11, c'est Sceaux, je crois, qui est également co-scénariste d'un film sur Jean-Baptiste Godin, et Georges-Guillaume Kérou-Rédan, qui est un chômeur, mais qui a été enseignant de philosophie, et qui est en quelque sorte un permanent à la Bibliothèque des Amis de l'Instruction. Alors vous êtes, je l'ai dit, des passionnés, vous n'êtes pas des historiens de métier, et j'aimerais que nous évoquions, pour parler de cette Bibliothèque des Amis de l'Instruction, la personnalité d'un autre passionné, celui qui a été à l'origine de la bibliothèque, je veux dire Jean-Baptiste Girard. Nous évoquerons ensuite, par la suite de l'émission, ce qu'est devenue la bibliothèque, ce qu'elle a été vis-à-vis des institutions, et puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui. Alors j'aimerais que vous nous parliez tout d'abord de ce Jean-Baptiste Girard. Qui était-il?
Oui,
Jean-Jean Kérou-Rédan.
Oui, Jean-Baptiste Girard était un peu connu déjà, avant que l'historien britannique Ian Fraser fasse des recherches récentes sur sa biographie. Il était un petit peu connu, mais également il était un petit peu trahi, parce que on avait surtout la légende républicaine avait surtout retenu l'avait un petit peu associé à la création de l'école laïque, et Jules Ferry lui avait d'ailleurs conféré les palmes académiques. Au fond, on lui avait donné un petit strapontin parmi les pères fondateurs de la République des professeurs.
Oui.
Ce qui apparaît dans les recherches récentes que nous avons pu mener, c'est que c'était peut-être surtout un grand militant ouvrier, et un grand militant surtout de la cause associationniste.
Oui.
Puisque son entrée sur la scène de l'histoire n'est pas d'abord associée à la bibliothèque ou à l'instruction, mais surtout à la formation du premier syndicat des lithographes, et en 1849, et l'année suivante, en 1850, il est à l'origine de la réunion du syndicat des lithographes et de celui des typographes, qui était jusqu'alors plutôt en rivalité, pour assurer l'élection d'Eugène Sue, à la fameuse élection partielle de 1850.
Je présentais comme député Eugène Sue.
Oui, et il était élu d'ailleurs. Mm-hmm. Alors Girard, au fond, est d'abord et surtout, je trouve, celui qui a assuré l'élection d'Eugène Sue, qui représentait à l'époque le candidat socialiste.
Avant d'en venir tout de suite à 1850, on pourrait peut-être quand même parler un peu de la jeunesse de Girard. Ce qui l'a marqué, c'est qu'il n'a pas eu d'instruction. Ça, il était même analphabète.
Oui, c'est un jeune paysan qui est né à 20 km de Langres, ce n'est pas inintéressant, c'est à Diderot, et qui, jusqu'à 19 ans, bon, il est monté à Paris assez vite, et il était cocher de fiacre. Il était analphabète jusqu'à 19 ans.
Et pour un futur ami d'instruction, c'est un
oui,
beau début.
Justement, oui. Lorsqu'il a appris son métier de lithographe, il s'est inscrit à l'association philotechnique.
C'est quoi cette association?
L'association philotechnique s'est créée en 1848. Un petit peu en opposition à l'association polytechnique qui, elle, existait déjà depuis 1830.
C'est une association dans laquelle on apprend
des
métiers
des dissidents, ce sont des enseignants dissidents de l'association polytechnique, et qui trouvaient qu'il fallait que les ouvriers et les artisans avaient besoin d'un enseignement plus utile, plus pratique, plus directement lié à leurs besoins, en particulier un enseignement technique et scientifique.
Oui.
Il est donc élève en cours du soir dans cette association, et il n'a pas encore évidemment des soucis de créer de bibliothèque ou des soucis analogues. Il est un simple élève, mais il est très actif par contre sur le plan syndical, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il a créé ce syndicat des lithographes. Oui, et puis l'année suivante.
C'est ça. Il va y avoir en fait une double lutte, une lutte politique et une lutte qui serait plus en faveur de la culture chez Girard. C'est ça.
Oui,
il y a deux courants qui vont l'amener à fonder cette bibliothèque.
Oui, c'est ça. Il y a ces deux courants-là. Mais le deuxième courant va se préciser quand même plus nettement bien après, c'est-à-dire dans l'inaction politique forcée qui a suivi la répression.
Oui, donc il est d'abord un militant ouvrier.
Oui.
Un militant ouvrier alors qui passe donc la candidature de Genesio, comme tu as dit.
Oui.
Et après, il connaît la prison, c'est ça?
Bon, au moment, peu après la candidature de Genesio, il est élu comme délégué au comité de direction de l'Union des associations ouvrières, toujours en 1850. Bon, il est donc déjà un rôle politique assez éminent. Et lorsque l'association est dissoute et que ses membres sont emprisonnés, évidemment, Girard fait partie...
Et c'est un des premiers à être condamné.
Oui, et il est condamné... fameux procès, et il est condamné comme militant socialiste. Le procureur, c'est la charge que le procureur retient contre lui, et le présente même comme un socialiste convaincu.
C'est pas encore l'Empire, c'est déjà la République. Là.
C'est oui, toujours oui, la République. Oui, oui. Le coup d'État de décembre va trouver Girard en prison. Il est déjà emprisonné à Mazas, donc il ne peut rien faire. Oui.
Oui, et de Mazas, il va passer à Sainte-Pélagie, où il va sans doute fréquenter un certain nombre de républicains convaincus.
Oui, il va rester 5 mois à Mazas en préventive, et ensuite, après son condamnation, les condamnés seront transférés à Sainte-Pélagie, où là, il y a une petite bibliothèque de prison, et où ils ont plus de loisirs pour lire, etc. Alors, on peut supposer que c'est dans la relative oisiveté et de la prison et de la lecture en prison.
Et des rencontres.
Oui, et des rencontres avec d'autres militants emprisonnés. Puisque certains de ces prisonniers se retrouveront dans les premiers inscrits et les premiers membres fondateurs de la bibliothèque, mais nettement plus tard, en 61.
Oui, alors ça, c'est le premier pan de Girard, donc le côté militant ouvrier, associationniste, politique, mais il y a l'autre côté qui va venir, disons, du combat contre l'obscurantisme. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y a pas d'école.
Oui. Oui, bon, il y a...
On a dit qu'il était analphabète jusqu'à 19 ans, il n'est pas passé par les petites écoles.
Oui, bien entendu. Bon, il y a la fameuse loi de Guizot, 1832, proposant la création d'écoles primaires dans toutes les communes.
C'est pas obligatoire.
Elle n'a pas été tout de suite appliquée, très mal appliquée. Il y a encore beaucoup d'analphabétisme. Il y a un problème, effectivement, scolaire, mais il y a aussi un problème de formation ouvrière, plus spécifique.
Professionnelle.
Et professionnelle aussi.
C'est là l'association philotechnique.
D'ailleurs, en sortant de prison, en 52, il a fait donc 22 mois de prison, Girard se réinscrit à l'association philotechnique, et il va devenir très très assidu. Il va faire des cours de chimie, des cours de
comptabilité, parce que concours après concours,
oui, 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 il a des titres, il y a des distributions de prix.
Tous les ans, il ajoute à sa paix.
Oui, c'est ça. Il est distingué comme un des meilleurs élèves de l'association philotechnique.
Et ça concerne beaucoup d'ouvriers. Enfin, c'est très répandu ce genre d'attitude. Enfin, assez répandu.
Oui, j'ai pas de chiffres
à Girard,
vous donner, mais oui, l'association philotechnique se développe beaucoup. Mm-hmm. À ce moment-là. Mais il y avait d'autres créations diverses qui n'étaient pas toujours de forme associationniste. Par exemple, l'école Turgot, où va être installée dans les premiers temps la bibliothèque, l'école Turgot est une création de la municipalité de Paris dès 1837 pour donner des cours primaires professionnels, techniques au fond. C'est un peu l'ancêtre de l'enseignement technique. Et c'est donc une école communale.
Mais à titre privé, en fait, c'était pas les...
Ah, c'est la commune.
La commune,
c'est
oui.
Communal.
Oui, oui. Oui.
Bon, tandis que l'association philotechnique, elle, était purement associative. C'est une évolution de l'association polytechnique, fondée, comme vous le savez, des polytechniciens républicains après 1830.
Quoi. Oui, oui. Oui.
Il y a une filiation républicaine qui devient ensuite plus directement socialiste. Quoi. Dans cette opposition des deux associations philotechniques et polytechniques, on peut aussi présenter les choses comme ça.
Il y a un vaste débat qui se situe donc autour de l'instruction. Vous venez de le montrer un petit peu, mais il y a aussi sur la lecture. C'est une chose un peu différente, non?
Oui, c'est un peu différent, et tout en étant étroitement associé.
Oui, bien sûr.
Effectivement, il faut que les gens ne soient pas analphabètes pour pouvoir lire. Et aussi, quels livres ils vont pouvoir lire? Quel niveau d'instruction? Bon, le point de bibliothèque se pose en France de manière assez spécifique par rapport aux pays voisins.
Il n'y a pas de bibliothèque en France.
Oui, c'est ça qui est absolument paradoxal, c'est que la Révolution qui a, par exemple, nationalisé les archives, la Révolution qui a...
Prôner l'instruction, les lumières. L'instruction,
oui, et qui a développé une politique de la langue extrêmement vigoureuse, hein, celle de Grégoire.
tout en prônant une politique de la langue, n'a pas vraiment pensé les moyens de la.
N'a pas pensé ou n'a pas eu le temps.
Oui,
n'a
pas eu le temps.
C'en est gentil avec la République.
Oui, mais enfin, par exemple, le projet dans la Ligue pour le développement de l'instruction primaire va, je crois, être créé autour de 1800, et le décret impérial qui va le développer va être signé la veille même de Waterloo. Évidemment, les choses ont beaucoup traîné, et pour l'instruction primaire, et pour les bibliothèques publiques. Alors, on en parlera, mais on ne fera rien, alors que la Révolution a tout de même hérité des très riches bibliothèques confisquées à la noblesse et aux émigrés, c'est-à-dire les châteaux et de grandes bibliothèques, et elles sont tombées dans le domaine public.
Mais il y avait quand même la littérature de colportage. Hein,
oui, c'est ça. Alors oui, mais ça, il fallait l'acheter, puisque la littérature de colportage, je suppose qu'elle...
Bon, il fallait d'abord savoir lire,
oui.
Il fallait l'acheter...
Oui, et puis elle devait...
Se le faire lire aussi.
Oui, se le faire lire, parce que là, il y a toujours le problème de la littérature de colportage, on ne sait jamais trop qui l'a lu. Oui. Hein. Et on a tendance à venir, les dernières analyses, à penser que finalement c'est un public plus bourgeois qui l'a lu plutôt qu'un public populaire.
Oui, enfin, le fait est, c'est qu'il n'y a donc pas une politique de la lecture vraiment définie, et très tôt, le problème est posé.
Il n'y a pas de politique sur les bibliothèques non plus.
Oui, c'est ça, voilà. On n'a pas fait grand-chose de ces bibliothèques héritées des châteaux.
Mais comment il y a quand même un phénomène qui vient d'être étudié récemment, c'est quand même le cabinet de lecture, ça existe. Hein. Dans le Marais, par exemple, vous pouvez installer la bibliothèque, il y en a beaucoup.
Oui, j'arrivais à cela justement, dans la mesure où... Pour pallier à cette carence, se développent par contre les cabinets de lecture, mais leur densité, par exemple dans le Marais où nous sommes installés, est extraordinaire, mais leur densité ne peut pas pallier à l'indigence de leur fonds. Et c'est très assez limité, quoi.
Nous, dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous, qu'à ça l'air incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid et la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde, buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines. Trouvons les flots de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous droit s'émerveille. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise au gronde. Vivons, vivons, vivons. Chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire la ronde, que le canon se taise.
C'était le chant des ouvriers chanté d'une voix très mâle par Armand Mestral, le chant des ouvriers de Pierre Dupont. Ce matin dans Clio, l'émission d'histoire du Pont des Arts de 988 FM, je le rappelle, nous parlons de la bibliothèque des Amis de l'Instruction, la bibliothèque du 3e arrondissement. On a évoqué un petit peu son fondateur, Girard, qui s'inscrivait dans le cadre très général de l'éducation populaire à l'époque, de l'éducation et de l'instruction. Alors j'aimerais maintenant qu'on entre un petit peu dans le détail avec nos deux invités, je le rappelle, Odile Vacher-Martin et Georges-Guillaume Kérouredan. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail de cette bibliothèque. Alors, elle s'est fondée en 1861. Quels étaient ses statuts? Comment elle existait?
Alors, les statuts de la bibliothèque, je donne quelques grandes lignes. Il fallait d'abord avoir plus de 15 ans. Ensuite, avoir un domicile. Lutter contre les mineurs, oui. Enfin, les mineurs, c'était quand même
jeunes mineurs.
C'était des jeunes mineurs. Oui.
Ça faisait déjà un bout de temps qu'ils travaillaient, en tout cas.
Oui, on acceptait les jeunes mineurs, justement. Oui. Ensuite, il fallait avoir un domicile connu. Les droits d'admission.
Respectable, en quelque sorte.
Oui,
pas vagabond, pas mendiant, pas des gens sans aveu, comme on disait. Oui.
Ensuite, un petit détail intéressant, c'est le tarif homme et le tarif femme.
Différent. Plus cher pour les femmes.
Les hommes payaient 1 franc et les femmes 50 centimes. Mmh. C'était les droits d'admission.
C'est la moitié de l'homme, c'est bien connu.
Il y avait un abonnement mensuel qui était de 40 centimes pour les uns et 20 centimes pour les autres. Donc il y avait toujours la même inégalité homme-femme. Là.
Mais ces statuts se sont faits sur un modèle ou ils ont été inventés?
Ces statuts ont été sans doute discutés, préparés par Girard et son équipe et son entourage. Je ne sais pas s'ils avaient un modèle. Ils avaient peut-être consulté d'autres types de statuts dans le cadre de leurs études. Et il fallait qu'ils élaborent ces statuts. Mais ce qui est intéressant encore dans les statuts, c'est que les livres sont la propriété de tous les lecteurs, de l'ensemble des lecteurs. Que la totalité des lecteurs participent au conseil d'administration et qu'ils ont leur mot à dire dans l'Assemblée générale.
Il y a des assemblées générales, c'est ça.
Une fois par an. Et que ils élisent un bureau pour s'occuper de l'administration de la bibliothèque. Et donc c'est la masse des gens inscrits qui élit et qui nomme, qui désigne le bureau. Autre chose intéressante à dire sur les lecteurs par rapport à leur fonds, c'est qu'ils ont le droit de choisir des titres qu'ils soumettent au bureau. Qui lui accepte ou refuse les titres pour la bibliothèque.
Et ils font des propositions qui sont acceptées ou refusées.
Ils font des propositions qui sont acceptées ou non acceptées. Donc il y a, dans l'ensemble des premiers statuts de la bibliothèque, une certaine liberté des gens vis-à-vis de leurs fonds. Ils ont un rôle. Ils doivent élire un bureau et ils ont un statut précis.
Une forme démocratique.
C'est une forme très démocratique, oui. Bon, donc ces statuts ont été préparés, ils ont été votés, ils ont été acceptés par les autorités. Mais devant tout ça, ça marchait trop bien. Et quand on regarde la liste des premiers inscrits, des lecteurs donc, on est étonné de trouver des noms appartenant à des catégories sociales ou politiques ou idéologiques très différentes. On trouve des gens comme Auguste Rodin, le sculpteur.
Oui.
César Daly, un architecte fourriériste. Napoléon Chex, l'imprimeur connu. Chex.
Oui.
Oui, le fameux du Chex. Un professeur à la Sorbonne, Alfred Mézières. Grandot, un chimiste qui a laissé son nom dans l'encyclopédie.
J'ai présenté cette bibliothèque tout à l'heure comme étant ouvrière et populaire. Ça...
Je vous donne des noms.
Ça ne semble pas très très bien correspondre.
Jounin, médecin fourriériste. Delbrouck, architecte condamné, qui a eu un rôle important dans les associations ouvrières et qui était donc très proche des ouvriers. Si je ne donne pas plus de noms d'ouvriers dans l'immédiat, c'est que ils sont difficiles encore à déceler à ce moment-là. On est seulement en 1861, ils n'ont pas encore pris un rôle fort.
C'est le groupe autour de Girard, ça.
Sauf Girard et quelques rares qui ont eu un rôle. Mais là, ils n'ont pas encore...
Je dirais que Girard est quasiment l'alibi. De ces personnes qui sont des notables éclairés, certes.
Oui.
J'en doute
Oui.
Des notables quand même.
Bon. Alors donc, parmi tous ces gens-là, on peut se demander comment, avec ces statuts très libéraux, ils vont s'en sortir et comment les choses vont fonctionner. Et en fait, ça débouche très rapidement sur un conflit. Le conflit se passe à peu près un an après la création de la bibliothèque. Tous les lecteurs sont présents lors d'une assemblée générale. Et les lecteurs font deux petites demandes très gentilles qu'on leur refuse. Ils demandent d'abord que le maire de l'arrondissement, qu'on veut leur imposer comme président honoraire permanent, ne soit pas élu en tant que maire de l'arrondissement, mais soit nommé président honoraire en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'ils refusent, ils acceptent l'individu, ils refusent l'institution. Bon, c'est très timide. Maintenant, deuxième... quand même, bien sûr. Mais ça ne va pas très loin. Deuxième chose, il y a donc ce groupe qui établit une espèce de censure sur les textes demandés par les travailleurs, par les ouvriers. Et les ouvriers, les lecteurs, disons, ne contestent pas l'existence de ce groupe de censure, mais ils disent, bon, qu'on nous explique au moins pourquoi on enlève les livres.
Les motivations.
Les motivations.
Donc c'est important.
Et c'est refusé.
Mais est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait ce que les lecteurs demandaient? On a conservé des papiers
non.
là-dessus? Non,
il n'y a pas d'archives.
Non. Enfin, c'est dommage.
Peut-être,
oui.
Il y a peut-être, mais à vrai dire, il faudrait fouiller trop loin dans les archives.
On peut penser que c'est les ouvrages socialistes qui ont été refusés.
Bon, j'espère. Enfin, je le lis comme ça, si vous
voulez. L'autre jour, tu parlais du Voltaire.
Oui, hein, c'est ça, je crois. C'est un peu plus tard, l'histoire du Voltaire, oui. C'est un...
On a failli le refuser.
Un texte de Voltaire qui avait été demandé par Perdonnet, qui est un des notables de la bibliothèque, et on a décidé de lui céder ça. Oui. C'était beaucoup plus tard. Alors, je reviens à ce conflit, parce qu'il est quand même important, et c'est un point clé dans la bibliothèque.
Dès la première année, en 62-63.
En 62, oui. Oui, en novembre 62. Ce que le pouvoir craint dans l'existence de ce groupe bibliothèque, c'est que le groupe bibliothèque se transforme en groupe politique et ayant un rôle politique et donc des mots à dire. Et on n'y va pas de main morte, on ferme la bibliothèque. Et elle ne réouvre que plus d'un an plus tard.
Il y a un arrêté municipal qui est pris ou...
Oui. C'est le maire qui décide de fermer la bibliothèque. Elle ouvre seulement un an plus tard et on change les statuts. Et dans les nouveaux statuts, c'est ça qui est amusant à voir, c'est que le président de la bibliothèque n'est pas élu par le bureau, il est nommé par le ministère de l'Intérieur. Mmh. Le maire de l'arrondissement est président honoraire, c'est sûr. Le catalogue doit être approuvé par le ministre et les membres du bureau ne sont plus élus par les lecteurs, ils sont nommés par le président qui est donc lui-même, qu'on l'a vu tout à l'heure, élu et nommé par le ministère de l'Intérieur. Et on ajoute, là il y a trois lignes que je voudrais vous lire sur les statuts, les nouveaux statuts de 62 qui me plaisent beaucoup. Il est interdit de lire dans le local occupé par la bibliothèque. Les sociétaires, après avoir reçu ou rendu les livres qui leur sont prêtés, doivent s'abstenir de stationner ou de former des groupes. Mmh. Donc il y a cette idée de groupe et
la peur de groupe de l'assemblement.
Groupe égale danger.
Oui. Hein, oui.
Ça c'est très net.
On ne peut pas lire sur place, on ne peut pas.
On ne peut pas lire sur place. Mmh. Alors, à partir de tout ça, je me suis amusée devant le fichier des lecteurs. Je me suis amusée.
Les archives existent toujours de la bibliothèque.
Il y a certaines archives qui existent toujours, oui.
Qui
sont à la bibliothèque. Le premier fichier des lecteurs est là-bas, oui. Je me suis amusée à fouiller comme ça dans ce fichier pour essayer de voir s'il y avait ce qui se passait, pour essayer de déterminer des clans. Et il me semble qu'il y a vraiment trois attitudes devant la bibliothèque. Le premier clan, qui est celui du maire et celui de Favet, ami de Napoléon III.
C'est le pouvoir, les représentants du pouvoir.
Qui sont des représentants du pouvoir. Ils viennent ici pour fliquer. Ils surveillent. Mmh. On veut donner l'instruction au peuple, mais pour l'éloigner de la taverne, et c'est tout.
Il faut quand même que ça leur paraisse important, pour que ce soit des gens importants du régime qui se déplacent quand même.
Oui. Oui,
parce qu'ils auraient pu envoyer n'importe quel espion de police là.
Ah, il y en avait sûrement, je ne l'ai pas retrouvé.
Il y a quand même pour des gens de cette importance, il est colonel, je crois.
Il est encore colonel, il va être général après.
Oui, un personnage se déplace comme ça, il faut quand même qu'il sente qu'il se joue quelque chose d'important là.
Oui, oui. Alors, il y a l'idée que le peuple veut être instruit, on va l'instruire, mais il faut le moraliser. C'est la condition numéro un. Il faut le moraliser et faire attention à ce qu'il lit.
Oui, c'est bien représentatif de la classe dominante de l'époque.
C'est complètement.
Puis c'est la période de restauration de la censure aussi, je crois.
Oui, absolument.
En particulier sur la littérature de colportage, c'est la période où on essaye de la tuer.
C'est ça. Donc, là, je vous lis encore, si vous voulez, trois lignes. Offrir tous les soirs, l'objet de la bibliothèque, donc offrir tous les soirs à l'ouvrier les moyens de se reposer du labeur en cultivant son âme. Mais surtout...
Son âme, oui.
Son âme, bien sûr.
L'aspect métaphysique.
Mais surtout, éviter les manifestations de sentiments politiques. Mmh. c'est ça, instruire le peuple à condition de le moraliser. Et il ne faut pas que ces bibliothèques se transforment en foyer de propagande. Bon, alors ça c'est la première attitude. La deuxième attitude vis-à-vis de la bibliothèque et de l'instruction, je crois qu'on peut dire qu'elle est représentée clairement par Perdenet. Perdenet, c'est un ancien Saint-Simonien, bourgeois libéral, qui veut instruire les classes laborieuses, bien sûr pour les moraliser, mais aussi pour leur donner des instruments de lutte pour l'ascension sociale.
Hein? Oui.
Bon. Pourquoi
enrichissez-vous de façon très, très générale.
Pourquoi l'ascension sociale? C'est pas pour le bien-être des ouvriers uniquement, c'est pour les progrès de la technologie. C'est le siècle de l'industrialisation. Il faut arriver à des mutations sociales, des mutations technologiques pour l'industrialisation, pour le progrès. Et c'est là, il y a...
C'est en développant un peu l'esprit d'invention des gens, oui, en les ouvrant à la lumière.
En les ouvrant à la lumière, on va leur donner des armes,
oui, c'est très saint-simonien,
pour qu'ils aient des idées, etc. Et là, on est complètement dans la politique saint-simonienne, qui ne refuse pas forcément l'Empire, d'ailleurs.
Oui, il faut rappeler que Perdenet est ingénieur, et à l'époque, il est directeur des chemins de fer de l'Est. C'est un polytechnicien qui était exclu polytechnique à la fin de la Restauration, pour complot républicain, plus ou moins, au moment de complot des Carbonari. Donc il a déjà une image libérale saint-simonienne et puis en même temps l'image d'ingénieur.
Oui, c'est ces saint-simoniens qui vont se rallier à l'Empire, qu'on va retrouver dans toutes les grandes compagnies des chemins de fer et dans d'autres endroits. En fait, il y a deux clans de l'Empire, mais finalement à la fois l'Empire libéral et l'Empire autoritaire qui sont présentés par ces gens-là.
Oui, moi je trouve.
Sans veut schématiser.
Oui,
hein.
oui, mais il y a quand même une distinction. Hein.
Oui, oui. C'est tout l'Empire qui est ambigu à ce point de vue-là, je crois.
Disons, je vais schématiser avec des mots bêtes. Il y a les flics et puis il y a les bénévoles.
Mais vous nous avez annoncé, Odile Vacher-Martin, un troisième groupe.
Alors, le troisième groupe...
Les flics et les bénévoles.
Dans les bénévoles, j'ai envie de mettre Napoléon Chex. Hein, il faut le mettre. Oui. Alors, le troisième groupe, c'est celui des engagés politiques. Alors, pour l'instant...
Ils ne se montrent pas trop sous l'Empire, je suppose.
Ils se montrent pas trop, mais il y en a qui ont déjà passé
par les prisons,
par les prisons.
Comme Girard.
Un autre qui est architecte, qui s'appelle Delbrouck, qui avait fait un travail donc avec dans l'Union des associations ouvrières. Il y a encore Henri Le Neveu, un typographe socialiste, qui avait été le gérant de la revue L'Atelier, qui était vers 1848, qui avait un rôle important entraîner les associations coopératives. Et donc ce journal, L'Atelier, est important, rédigé par des ouvriers, pour des ouvriers.
C'est le premier journal ouvrier, je crois.
Le premier journal ouvrier. Il faudrait aussi citer Jules Lermina, qui était journaliste et romancier nettement dans l'opposition. Et encore un nom, j'en donnerai encore un ici, qui s'appelle Victor Laboulaye, qui est un ouvrier, qui vient du 20e arrondissement et qui est un signataire du manifeste des 60 en 1864, qui demande que les ouvriers appartiennent au corps législatif.
Et comment vous pouvez expliquer que ça prenne, là, ça fait une espèce de ciment, ces trois groupes
Alors, un ciment, je ne sais pas s'il est là, le ciment. Je pense que le ciment ne devait pas être présent et que
il y aurait eu des conflits permanents sous-jacents.
Je pense qu'il y en a certains qui sont repartis ou qui venaient plus très souvent, ou bien ça devait être ça. À moins qu'on a peu de traces sur les...
Oui, il n'y a pas de souvenir d'un lecteur.
On n'a pas de souvenir, et les comptes rendus des assemblées générales ne nous disent pas tout.
Oui, je voulais citer aussi, ajouter à la liste des militants et ouvriers, Bellamy, qui...
J'avais l'intention d'en parler plus tard, parce qu'il n'a pas encore un rôle clair à ce moment-là. Il prend un rôle à la fin du Second Empire.
Oui, encore bon aussi.
Oui.
J'attends une belle... Une belle enfant, j'appelle, j'appelle, j'en parle aux passants. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. J'appelle, j'appelle, j'en parle aux passants. Que suis-je sans elle, un agonisant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Que suis-je sans elle, un agonisant. Je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore. Je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Transi quand il gèle, sans gîte souvent. J'ai dans la cervelle des mots et du vent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Et dans la cervelle des mots et du vent, bétaillon m'attelle, esclavon me vend. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Bétaillon m'attelle, esclave, on me vend. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Ah, viens ton appel, guérir ton amant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Ah, je l'attends. L'attendrai-je encore longtemps.
Quand viendra-t-elle? C'est Mouloudji qui chantait cette chanson ce matin dans Clio. Nous parlons de la bibliothèque du 3e arrondissement, la bibliothèque des Amis de l'Instruction. Et on vient d'évoquer un petit peu quelle était sa fondation, la façon dont elle s'était mise en place, les groupes qui la constituaient, en particulier sous le Second Empire, puisqu'elle est née en 1861. Alors j'aimerais un petit peu maintenant qu'on fasse son histoire, sa prime histoire, si vous voulez. Et d'abord, cette bibliothèque, est-ce qu'elle était unique ou est-ce qu'il y en avait d'autres?
Très rapidement, il s'en est créé d'autres sur l'impulsion de Girard, d'ailleurs, et sur le modèle de ce prototype.
Oui, il faut dire qu'après l'incident avec le maire du 3e arrondissement, le changement de statut, il est parti, Girard.
Ah non, mais bien avant ça, il s'en est créé d'autres. C'est-à-dire qu'elle s'est créée en avril, donc 61. Et dès le 28 juillet, Girard en a fondé une autre, et pas n'importe où, il l'a fondée dans son village natal, un petit village de 400 habitants, on parlait tout à l'heure, près de Langres, à 20 km de Langres, ce qui est tout de même extraordinaire que dans un milieu rural, un tout petit village, et il a donc fondé cette bibliothèque. Et à l'époque encore d'ailleurs, la bibliothèque du 3e arrondissement n'était pas légalement autorisée. Elle a fonctionné 5 mois, comme ça, sans autorisation légale, et sans attendre cette autorisation. Il a donc fondé une bibliothèque dans son village natal. Et l'année suivante, il en a fondé une autre à Vernon, dans l'Eure. Dans le 18e arrondissement également, en 1862, la deuxième bibliothèque
de Paris,
qui n'existe plus, celle-là. Associative populaire de Paris, et donc dans le 18e.
À quel endroit?
Alors là, je ne sais pas, exact, on va poursuivre.
Elle n'existe plus, celle-là.
Non, la plupart des... Nous sommes la dernière. Hein.
La seule qui existe encore.
La première et la dernière. Oui. Et ensuite, dans le 13e et le 5e arrondissement. Mais ça s'est développé très très vite au même rythme dans les régions qu'à Paris. Et il faut d'ailleurs, de ce point de vue-là, je crois mettre en évidence qu'au moment de la candidature de Gensu, je reviens un peu en arrière en 1950, oui. Le débat dans l'opinion et dans la presse, évidemment très centré sur la signification de cette candidature de Gensu, qui fait vraiment problème, évidemment, mais en même temps, il y a un débat équivalent, enfin en importance, à la fois sur la décentralisation et sur la création des bibliothèques publiques. Parce que l'argument qui est donné par la presse, c'est celui qu'on a évoqué un petit peu indirectement tout à l'heure, c'est-à-dire dans tous les pays voisins de la France, le point de bibliothèque est depuis longtemps quasiment résolu, il y a beaucoup de bibliothèques, il n'y en a pas en France, et si l'État ou les communes ne se chargent pas d'en créer, ça sera le mouvement ouvrier qui le fera lui-même.
Mais en fait, il n'y a pas eu de création, là. C'est le mouvement ouvrier, finalement, qui l'a créé.
Oui, là, je pense à cause de la révolution 48 et ensuite
de la répression,
de l'Empire. Ça a retardé. Il y avait eu déjà en 48 une amorce de création par Hippolyte Carnot, mais il n'avait pas eu le temps vraiment de la mettre en œuvre. Il y avait des motions déposées, des projets de loi déposés pour créer des bibliothèques. Daniel Stern le rappelle dans son livre sur la révolution de 48.
Oui, alors c'était une impulsion qui a échoué. Après, il y a eu la création de Girard et toutes ces petites créations. Alors, est-ce que la bibliothèque du 3e arrondissement servait un peu de modèle par rapport aux créations, créations?
Elle a servi de modèle à ceci près qu'elle est restée la seule bibliothèque qui, par la suite, bon, ayant refusé le contrôle du maire, Nogentil, s'en est passé. Les autres ont été obligés d'adopter dans leur statut préalablement le contrôle municipal, enfin forme indirecte contrôle municipal.
Je crois que les préfets de police n'aimaient pas cette bibliothèque du 3e arrondissement.
Oui, les préfets de police n'aimaient pas cette bibliothèque. Elle a été l'exemple, le modèle de ce qu'il ne fallait pas faire.
C'est ça, quand on leur proposait une création de bibliothèque, ils disaient oui, mais pas comme celle-là.
Et les gens proposant des bibliothèques disaient on ne va pas faire comme dans le 3e arrondissement, on sait ce qui s'est passé, on ne fera pas comme là-bas. Et les préfets de police envoient, dans les années qui suivent, des lettres aux responsables locaux des endroits où il y a ces bibliothèques et qui leur demandent de regarder de près ce qui se passe. Ils veulent être tenus au courant, donc là je lis, du développement de ces bibliothèques, comment sont composés les comités de dirigeants, quels sont les précédents politiques des membres de ces comités, quelle est la nature des ouvrages. Et on aura soin d'exclure les livres de polémiques sociales ou religieuses qui pourraient propager des théories dangereuses ou subversives. Donc c'est vraiment très nettement surveillé, et la bibliothèque est l'exemple et le modèle de ce qu'il ne faut pas faire.
Et sans avancer trop vite par rapport à ce qu'on avait prévu, est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages socialistes? Je crois que Proudhon n'était pas en très bon rapport avec...
Alors Proudhon a laissé des traces à la bibliothèque. On a des textes de Proudhon qui sont arrivés, je crois, assez tôt dans les archives.
Mais... Les lettres de Proudhon se trouvent à la bibliothèque?
Alors, non, on a trouvé une lettre de Proudhon ailleurs.
Parlons de la bibliothèque.
Qui est intéressante parce qu'elle parle de la bibliothèque et qu'il est très très méchant. Alors là, je vais vous en lire deux petits bouts seulement. Je veux bien envoyer quelque chose à la bibliothèque des Amis de l'Instruction, mais je désire auparavant avoir quelques détails sur cette compagnie. Le bonapartisme se fourre partout et je ne tiens pas à sentir mes coudes. Et un autre passage...
À sentir ses coudes.
Voilà. Un autre passage qui est un petit peu méchant pour Proudhon. Donc, parlant de l'idée de donner une instruction aux ouvriers, il dit « Je plains les esclaves, mais je ne les aime pas. Et en général, il en est peu qui me paraissent dignes d'estime. J'en dis autant du prolétariat. C'est un mal que je veux détruire. Ce n'est pas un dieu à qui j'offre mon encens. » Voilà. Oui. Alors ça, c'est un petit peu une démythification, démythification claire de Proudhon. Mmh. Il n'aime pas les prolétaires et... il les situe dans la même phrase que les esclaves. Voilà.
Oui, pour les premiers théoriciens du socialisme, c'est une performance.
Oui. Alors donc, la bibliothèque est surveillée. Mais malgré cette surveillance, il y a des gens qui se déplacent de l'autre bout de Paris pour y venir.
Oui. Ça, vous avez retrouvé donc les lecteurs et...
Et alors, là, j'ai essayé de voir un petit peu, dans les années qui précèdent 70, qui est intéressant parmi les inscrits dans la bibliothèque.
En pensant aux événements futurs.
En pensant au futur, hein, parce que j'ai la chance d'être après. Alors, je trouve dans ces, parmi les lecteurs, je trouve Jean-Victor Bellamy, qui était dans les premiers membres de l'AIT, et qui était présent
au MIT, c'est
l'Association internationale des travailleurs.
C'est la première internationale.
La première internationale. Qui était présent au premier meeting de cette internationale à Londres, en présence de Karl Marx. Je trouve Ernest Fribourg, également dans l'AIT, et qui était parmi les signataires du manifeste, d'un manifeste publié en 70, manifeste pacifiste.
Appelant à l'amitié entre les peuples,
voilà, appelant à l'amitié entre les peuples. Je trouve Fernand Conchon, Hippolyte Landrin, Delahaye et encore d'autres, qui appartenaient à l'AIT et qui étaient inscrits à la bibliothèque. Et, en avançant un peu les choses, je trouve aussi des gens qui vont devenir des communards, et qui vont être en exil ou en déportation après la Commune. Alors, bon, parmi ceux de l'international, il y en a certains qui vont être aussi déportés. Je trouve Élie Ricard, typographe, Gustave Briand, tourneur, Dupoisat, cordonnier, etc. Bon, ma recherche n'a pas été systématique là-dessus. Il y a trop de noms sur le fichier pour pouvoir
tout... Il y avait 600 inscrits presque tout de suite. Il y a eu 270 inscrits avant l'ouverture même de la bibliothèque.
Mmh. Ça tournait autour de combien de personnes à peu près?
Eh bien,
en moyenne.
Alors, il y a eu 600 inscrits donc la première année, et après la crise de 62, quand Arnaud Gentil a voulu contrôler la bibliothèque, beaucoup sont partis. Les effectifs sont tombés brutalement à 350. Mmh. Après, c'est remonté évidemment. Et alors, en 69, il y avait 1000 inscrits. 1000 inscrits et la bibliothèque d'ailleurs avait aussi commencé à organiser des conférences le dimanche matin notamment.
Ça, c'était un lieu quand même de concentration ouvrière et révolutionnaire, apparemment. Juste avant la Commune, si on voit le nombre de communards, de mandolaïtés.
Oui.
Pas exclusivement, il y avait d'autres lecteurs aussi.
Ah, oh, sûrement, c'est certain.
Cela, on ne les connaît pas.
Alors, cela, on ne les connaît pas. Mais alors,
un foyeriste peut-être.
Oui, non, mais bien sûr.
Il y avait plusieurs courants.
Il n'y avait pas que des gens appartenant à des courants. Hein.
Oui,
il y avait
des lecteurs populaires.
Des gentils voisins qui venaient chercher des
livres. Il y avait beaucoup de femmes.
Alors, femmes...
Celles qui payaient 50 centimes
au lieu d'un franc.
Il y en avait
très peu, justement. On leur avait fait un prix spécial, un prix d'amis, mais il y en avait très peu. Alors là, j'ai quelques chiffres du nombre de femmes. La première année, sur 559 inscrits, il y a seulement 37 dames, hein, donc 6,5% de...
C'est peu,
C'est très peu. Mmh. C'est très peu, oui. Alors, dans les années qui suivent, là, il y a une évolution. Les femmes arrivent progressivement, il en vient plus. Par exemple, en 67, il y en a 19%. En 72, 33%. En 75, 35%. En 77, 41%. En 80, 47 et en 87, 52.
Ça augmente régulièrement.
Oui, c'est quand même une montée voilà.
Et
permanente.
Et ça termine en 99, 65%. C'est-à-dire qu'il y a presque...
C'est-à-dire votre étude, ça termine en...
Je l'ai arrêté en 1900, j'aurais pu aller plus loin, mais enfin, voilà. J'ai arrêté mes chiffres en 1900, il fallait trouver un chiffre rond. Bon, alors donc, il y a une... au début, il y a très peu de femmes qui fréquentent la bibliothèque et... Mais les choses s'inversent légèrement.
On peut penser dans les périodes les plus militantes, c'est là où il y a le moins de femmes, en fait. Puis sur la période de création...
Peut-être, mais enfin, il y a des...
Et d'après ce que je vois, il y a une baisse en 1870 aussi.
Il y a une baisse des inscriptions...
C'est une théorie qui ne regarde que toi, Eric.
Oui.
Bon, disons que... pourquoi les femmes ne venaient pas? Est-ce que... Voilà, il y a plusieurs questions. Est-ce que les ouvrages sont trop techniques? Et donc, ça intéresse des métiers d'hommes?
Le premier fonds était très technique. Hein.
Oui, en principe.
Oui.
Bon, il y a une autre idée qui est suggérée.
Les
quartiers ouvriers nous apportent plus de clients. Du 18e, il en vient 23, du 20e, 18, alors que du 16e, il n'en vient que 6.
Et on connaît pas la motivation pour...
Pour venir, non.
C'est pas les plus militants.
On connaît pas leur motivation. On pourrait imaginer que ce sont les plus militants, mais il faut aussi quand même rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de bibliothèques comme ça dans Paris.
Oui, il n'y en a pas encore.
Il n'y en a pas encore.
Celle du 18e n'est pas créée.
Donc les gens se déplacent, peut-être. Mais il y a quand même l'idée de militants. Alors, autre point qui m'a intéressé en fouillant ce registre d'inscription, ce sont les professions des gens qui fréquentent la bibliothèque. Alors, la profession la plus représentée est celle des façonniers. C'est-à-dire, c'est un statut intermédiaire entre la classe ouvrière, le prolétariat et le salariat. Les gens, ce qu'on appelle les façonniers, sont ceux qui, à partir de matériaux appartenant à d'autres, donc aux commanditaires, fabriquent des produits avec leurs outils, dans leur espace et avec leur force de travail, si vous voulez.
Chez eux.
Chez eux.
Du travail à domicile.
Du travail à domicile.
C'est un quartier de travail à domicile.
Oui, c'est ça. Alors ceux-là sont très importants dans les inscrits à la bibliothèque, ils sont 34%.
Les plus nombreux, oui.
Les plus nombreux. Il y a aussi un certain nombre d'employés, 20%, et un pourcentage intéressant d'ouvriers et de manœuvres, qui est 10%. Ce qui est quand même assez important pour l'époque et quand on voit ça. Alors la bourgeoisie est plus faiblement représentée, c'est à peu près 8%, un petit peu moins de 8%, mais elle est quand même d'une certaine manière présente.
Est-ce qu'on peut penser que c'est une élite ouvrière qui vient
Alors,
lire
c'est
là
c'est une élite ouvrière, et là ça on le voit en regardant les corps de métiers desquels sont issus les travailleurs.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maître, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit bourraille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons, quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours issu qu'on me sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux, car la misère en sa tenaille fait saigner leurs plans amaigris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
C'est la canaille, et bien j'en suis, par Francesca Solville, ce matin pour illustrer la bibliothèque des Amis de l'Instruction du 3e arrondissement, dont nous parlons avec Odile Vacher-Martin et Georges Guillaume Kérou-Rédan. Oui, alors on a évoqué cette bibliothèque, on est rentré quand même pas mal dans les détails de qui la constituait, mais on a évoqué un peu rapidement peut-être le fond de la bibliothèque. Bon, on sait qu'il y avait au début des ouvrages techniques, que c'était un petit peu une façon de poursuivre une instruction professionnelle, Mais je crois que le fond a quand même assez rapidement évolué.
Le premier catalogue est quand même assez calqué et inspiré par les cours qui sont donnés à l'association philotechnique, puisque ce sont des élèves de l'association philotechnique qui créent la bibliothèque pour pallier à l'absence de livres dans l'association philotechnique aussi, qui donnait une instruction, mais ne donnait pas les moyens d'acheter des livres. C'était des livres techniques et scientifiques onéreux et relativement rares. Alors, on trouve à peu près 18% d'ouvrages scientifiques dès le départ. Et puis des ouvrages de chimie en particulier, parce que
c'est mécanique.
Et mécanique aussi, et beaucoup de chimie, parce que c'est un quartier d'horreur sur bronze, par exemple. C'est un quartier aussi, c'est le début des photographes. Il y a plusieurs photographes qui sont... Il y a même une femme photographe qui est inscrite dans...
Une des premières
qui est inscrite dans le catalogue. Michelet. Oui, Clémentine... Non, Michelet, pas Michelet. Non, ça serait... Non.
Trop beau.
C'est trop beau, oui. Mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages d'histoire, et dès le début, il y a à peu près 32% de romans et d'ouvrages littéraires. Et c'est cette proportion de littérature, cette part littéraire, qui va sans cesse se développer. Et comme on disait tout à l'heure, peut-être...
Lié à la féminisation.
Oui, c'est ça, oui. Mais enfin, ça, c'est une pure coïncidence, puisque de 32% à la création, enfin, ça se développe régulièrement, mais lentement quand même, on passe à 36% oui, d'ouvrages littéraires en 75, pour arriver quand même à 903, à 51%.
Je crois que c'est lié au goût général pour le roman dans cette fin du 19e siècle, de toute façon.
Oui.
Non, si, c'est la plus grande période des romans populaires...
On pourrait peut-être mettre en parallèle cette évolution des textes littéraires, romans et autres, avec l'évolution du nombre de dames qui viennent s'inscrire.
C'est ce que je disais aussi, oui.
Et par exemple, est-ce que la bibliothèque est abonnée à des journaux? Parce qu'on sait par exemple que dans les cercles bourgeois, on est abonné à un journal, ou à plusieurs journaux, on va lire. À la bibliothèque, il n'y en a pas dans le fond, il n'en reste pas.
Si, il me semble qu'il y en a un, là, c'est
il y a l'illustration, je crois, non?
Ah oui, il y a l'illustration, on a l'illustration depuis le numéro 1, depuis 1838. Oui, donc, il y a eu un achat rétrospectif de collection, puisqu'on a les premiers numéros.
Ou un don, ou... Mais il n'y a pas un grand journal d'opinion nationale ou...
Non, du moins, on n'a pas trouvé trace.
Oui, c'est parce que c'est pas comme dans le cercle bourgeois où à la limite on vient pour lire le journal, donc le journal peut rester, plusieurs personnes ne peuvent le lire à la suite.
Ah oui, non.
Là, comme on est obligé de passer, le journal n'a pas de lieu d'être là.
Non.
Donc il y a une progression du roman, pas de poésie du tout, très peu de poésie, je crois.
Oui. Et aussi des romans historiques, c'est la grande mode de l'époque.
Oui, c'est ça, je crois que c'est.
Les œuvres complètes de Walter Scott, par exemple. Très très belle collection, et puis on va aussi bien ensuite sur la Troisième République on va trouver Jules Verne,
les grands classiques populaires en fait.
Les grands classiques, oui.
Et est-ce qu'il y a, puisqu'on là on en a parlé tout à l'heure au début, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens liés à des milieux politiques, est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages de politique, d'économie politique
Oui, pas au début évidemment, on a vu les problèmes de la censure, mais progressivement, effectivement, ils vont sans qu'il y ait, enfin on n'en a pas trouvé trace de protestations ou de tentatives de les empêcher, de les enlever, on trouve des traités d'économie politique, on trouve aussi les ouvrages de Proudhon.
Et voilà, puis, c'est ça, de penseurs socialistes.
Oui, socialiste, oui.
Il n'y a pas du tout d'ouvrage de Marx, par exemple, j'ai pu consulter le fichier.
Il y en a un, arrive assez tardivement, il arrive après 75.
Toute cette branche du socialisme, oui, c'est un moment où la bibliothèque n'est plus, finalement, ce qu'elle était peut-être au début, un peu politique.
Ah oui, bien entendu, son rôle a beaucoup changé, oui.
Et c'est devenu une bibliothèque plus populaire, en fait.
C'est devenu plus, une bibliothèque de quartier.
Ça.
Une bibliothèque de quartier. Et parce que ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est la création des bibliothèques municipales aussi.
Voilà ça. Avec la Troisième République, elle va connaître une espèce de crise, enfin à partir de 1880, c'est ça, à partir du moment où les...
Elle n'a plus le même rôle politique, forcément, puisque la République est rétablie.
Oui, la liberté est rétablie, les associations sont rétablies, la presse est rétablie. Il n'y a peut-être plus besoin de cette bibliothèque pour...
Oui, et d'autre part, l'association philotechnique, à ce moment-là, se dote aussi d'une grande bibliothèque, très très riche, et elle est subventionnée activement par le ministère de l'Instruction publique. Alors, les ouvrages techniques, on les trouve aussi à l'association philotechnique à ce moment-là, peut-être plus abondamment
Que... Puis ça va être la, avec la Troisième République, toute la politique des bibliothèques scolaires, des bibliothèques publiques.
Oui, ceci, je voulais rappeler cela aussi tout à l'heure, c'est que on a, c'est un point, je me semble, important à noter, c'est que l'essor des bibliothèques populaires, qui était très rapide en 1861, 1862, 1863, la floraison de, tout de suite en France et à Paris, mais au même, enfin, sur les traces, et un peu en concurrence, commence à se créer des bibliothèques municipales également.
Oui, c'est ça.
Enfin, bibliothèque municipale de Paris, je crois, 1863, deux ans après la nôtre quand même. Mmh. Et elle n'accepte pas les lectrices, le prêt aux lectrices d'ailleurs.
Donc il y a une concurrence directe.
Oui. Oui, et puis alors les bibliothèques scolaires, le fameux décret de ministre Roulant, instituant les bibliothèques scolaires, date de 62. Oui,
avant même la République. Hein.
Oui, 62. Je ne connais pas bien ça. Mais l'effectif de ces bibliothèques, évidemment, va grimper en flèche sous la Troisième République. Oui.
Chaque école va se doter de sa petite bibliothèque.
Oui, bibliothèque standardisée, avec un contenu également standardisé.
Oui, avec un catalogue d'achat sur lequel on peut choisir.
Oui, alors on voit très bien même trois classes de bibliothèques qui d'un seul coup se mettent à se développer en concurrence. Des bibliothèques associatives, les nôtres, bibliothèques populaires, des bibliothèques municipales et les bibliothèques scolaires de l'État.
Il va y avoir une concurrence.
Et oui, et la concurrence, c'est nous qui en avons...
Payer les frais.
Fait les frais, puisqu'on n'avait pas les moyens
de lutter contre
cela. Et d'autant plus que l'État nous a nettement désigné comme l'ennemi à abattre, comme le danger que représentait pour son monopole, en quelque sorte,
son monopole culturel
et idéologique. Et il y a des textes tout à fait...
Oui, Girard a fondé, je crois.
Et éloquent de cette concurrence. De sorte que en 1882, Girard, il est encore actif dans le réseau des bibliothèques, mais à ce moment-là, il habite Asnières, il a fondé une nouvelle bibliothèque à Asnières, où il est retraité, mais il est amené à fonder un syndicat pour défendre ce qui reste comme bibliothèque, et il fonde le syndicat des bibliothèques libres, des bibliothèques associatives libres, et libres par rapport, évidemment, au contrôle étatique, au municipal.
Il y a beaucoup de bibliothèques qui adhèrent à ce syndicat.
Il y a 12, et plus une bibliothèque positiviste.
Des positivistes qui ont leur propre bibliothèque.
Oui, mais c'est par contraste justement avec les nôtres qui, elles, ne demandent pas une adhésion
à une
philosophie qui sont bibliothèques publiques, au fond, mais associatives. Bibliothèque positiviste, elle est quand même orientée.
Oui. Alors, votre bibliothèque va vivre jusqu'à nos jours. Et maintenant, je crois que pour conclure l'émission, on pourrait peut-être parler un peu du présent, de ce que vous envisagez, comment vous envisagez l'avenir. Comment vous vivez, comment on peut y aller, puisqu'on n'a même pas donné l'adresse, je crois.
Si, je l'avais donné au début, c'est 54 rue de Turenne. Il faut dire que c'est un endroit qui est tout à fait magnifique, hein. C'est quatre petites pièces. On a l'impression de rentrer chez quelqu'un. C'est un peu, il y a deux jours, dans le cadre du Pont des Arts, Pierre Charrère a fait une émission sur des peintres qui exposent dans leur appartement, et j'ai eu tout à fait cette impression de rentrer chez quelqu'un en rentrant dans cette bibliothèque qui est 54 rue de Turenne. C'est quatre petites pièces, rez-de-chaussée, premier étage, et qui sont tapissées d'ouvrages. Très, 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 très beau.
Oui, il y a une exposition aussi. Parce que
oui, c'est ça.
Une exposition. En 84, donc, nous avons fait une grande manifestation. Nous avons.
Pour le centenaire de l'installation.
Oui, pas le centenaire de la création, mais le centenaire de l'installation dans ce lieu. Parce que nous avons déménagé, effectivement, en 84, nous sommes venus là. Et à cette occasion, on a monté une exposition rétrospective qui faisait un peu le point des recherches sur l'histoire des bibliothèques, avec une très riche iconographie, beaucoup de textes. Et cette exposition est restée accrochée à la bibliothèque. On peut la voir encore pendant quelques temps, parce qu'elle va commencer à tourner dans les régions. À la suite de cette fête, on a fait une fête de quartier aussi, évidemment, et c'est à la suite de ces manifestations qu'a eu lieu en novembre 84 un grand colloque scientifique sur l'histoire des bibliothèques et la place de notre prototype dans cette histoire. Et nous avons édité nous-mêmes les actes de ce colloque.
C'est un colloque très riche, ouais. Qu'on peut se procurer ou...
Oui, on peut se le procurer directement à la bibliothèque en le commandant, en passant.
Une commande ou en passant, on peut passer à quelle heure d'ailleurs? S'il y a des gens qui ont envie de s'inscrire à la bibliothèque.
Alors, on peut passer le mardi de 6h à 7h, ou 7h30. En général, les heures de fermeture sont un peu souples quand il y a du monde. Et le vendredi, de 6h à 8h, et le dimanche, de 10h à 13h.
Le dimanche matin.
Dimanche matin, oui.
Bien, et alors, c'est peut-être une grande question, mais vos perspectives d'avenir, vous allez...
Vous bénéficiez de fonds publics importants,
ah non, pas
vous
du
êtes soutenu.
Nous n'avons pas le moindre...
Vous avez le patronage d'historien de renom.
Ah, nous avons à ça, en matière de patronage, nous
sommes...
Nous
avons une grande liste, oui.
Une grande liste.
Patronné comme sous le Second Empire, par les...
Oui, nous avons souvent annoncé dans Clio vos... Vos conférences,
il y a des animations quand même, il y a un certain nombre de...
Oui, alors nous organisons aussi des soirées de lecture, c'est-à-dire les lecteurs aiment parler des livres qu'ils aiment, ou invitent des écrivains.
Il y a eu La sorcière de Michelet par Michel Perrault.
Oui, Michel Perrault est venu 3 fois nous présenter des ouvrages, c'est une des plus fidèles, une de nos plus fidèles historiennes. Mais il y a eu d'autres soirées, par exemple de Geneviève Fraisse sur... le développement des instituteurs, des institutrices en milieu rural, enfin il y a différentes soirées. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore là,
sur les concours.
Ah, oui, il y a très récemment, ou la dernière d'ailleurs, j'ai oublié, une des plus passionnantes, sur génie androgyne des concours par Vanda Banou, qui a publié récemment ce texte.
Et qu'est-ce que vous prévoyez comme future causerie, sinon au coin du feu, du moins au coin de la bibliothèque?
Eh bien, il y a, là pour, dans l'immédiat, il n'y a rien de prévu, mais il y a une date qui reste encore à déterminer, mais l'accord est tout de même fermement établi. L'auteur de Calico va venir nous présenter...
Philippe Lejeune.
C'est ça, oui, Philippe Lejeune.
Et son père, Xavier Lejeune, nous les avions reçus dans Clio au moment de l'apparition de l'ouvrage. Oui.
Bien, ouais. Peut-être nous pourrons alors annoncer nos soirées, si vous voulez bien, sur...
Mais nous l'avons déjà fait et nous continuerons à le faire. Odile Vacher-Martin et Georges Guillaume Kérou-Rédan, merci. Et merci de votre passion pour cette bibliothèque du 3e arrondissement qui se trouve, je le rappelle, au 54 rue de Turenne.
Je suis franc et sans souci, parfois je m'en flatte. Le drapeau que j'ai choisi est rouge écarlate. De mon sang, c'est la couleur qui circule dans mon cœur.
Vive la commune, enfant, vive la commune.
Oui, le drapeau rouge est bien le plus bel emblème de l'ouvrier citoyen, c'est pourquoi je l'aime. L'étendard des travailleurs sera toujours le meilleur.
Vive la commune, enfant, vive la commune.
Je n'aime point les méchants, ni les bastonnades, mais j'aime tous les enfants, ou mes camarades. Lorsque je joue avec eux, nous chantons le cœur joyeux.
Vive la commune, enfant, vive la commune.
La commune, savez-vous, petit téméraire, ce que c'est écouter tous, c'est de vivre en frère. Et lorsque nous...